Bonjour à toi qui nous écoute.
Et bonjour à toutes et à tous, et nous revoici de nouveau ensemble.
Oui, et on est ravis d'être là, toujours au Jardin des Tuileries.
On est au Jardin des Tuileries, le temps par rapport à l'épisode précédent est un petit peu entre deux.
Oui, c'est vrai, c'est très nuageux, mais pas pluvieux, et pas un grand soleil non plus.
Pas le grand soleil non plus, on a le même que vous, mais le soleil on l'a dans le cœur.
Exactement. C'est très poétique aujourd'hui.
Ah oui,
oh, je sens qu'on va s'amuser.
On va parler de plein de choses très sérieuses. On va essayer d'être les plus pédagogiques possibles.
Oui.
Puisqu'on va essayer de rentrer un petit peu dans les fonctionnements de nos structures de pensée.
Ça va être assez intéressant. On va vous tracer vraiment les grandes lignes, une sorte d'autoroute que vous pourrez prendre et qui sera peut-être un peu plus accessible, un peu plus fluide pour votre compréhension.
Voilà. On va prendre l'autoroute des valeurs.
Oui.
Voilà. Et puis.
Et la nationale des croyances.
Et la nationale des croyances. C'est déjà pas mal. C'est un beau chemin pour aller en vacances. On va se promener dans ces méandres-là, en lien avec l'épisode précédent d'ailleurs.
En lien avec l'épisode précédent. Alors, installez-vous confortablement, vraiment. Et puis, posez votre sac à dos à vos pieds et c'est parti.
Pour un petit voyage entre départemental et autoroute.
Et sans péage.
C'est parti.
Alors, je ne sais pas si tu te rappelles, mais à l'épisode précédent, Clémentine avait absolument voulu nous rencontrer au Jardin des Tuileries. D'ailleurs, ouais. On a, je crois, mis notre QG ici.
Ouais, c'est notre QG.
Pour les trois autres épisodes.
Au choc environnement.
Alors, c'est très agréable. Il y a des herbes, des mésanges, etc. Nous, on est un petit peu fans de nature. Donc, forcément, ça, c'était notre parenthèse. Voilà.
Ce sont des perruches parisiennes.
Notre parenthèse au sein des parcs. Donc, on avait abordé une thématique tout à fait importante qui était les besoins. Et donc, Clémentine nous expliquait ses besoins. On s'était laissé sur la question, et toi, quels sont tes besoins? Quelle strate a besoin d'être renforcée aujourd'hui, nourrie, pour pouvoir avancer dans cette vie? J'espère que tu y as bien réfléchi, parce qu'aujourd'hui, Eric, on va passer un petit cap supérieur.
Voilà, on va le monter un petit peu plus haut dans l'échelle des compréhensions de ce qui nous anime, de ce qui nous motive et de ce dont on a besoin. On va dépasser le cap du besoin là pour aller se confronter maintenant à un autre niveau, à quelque chose ici qui nous permet de faire le lien justement avec
ce dont on a besoin. Et on s'appuierait pas sur la petite question de Sofiane?
Eh oui, on a une question de Sofiane qui nous a interrogé, fidèle auditeur depuis premier épisode,
on t'en remercie.
Et voilà, qui nous a posé la question suivante.
Peut-on réellement se fier à ses croyances? Alors, je sais que vous avez été nombreux à nous demander les croyances, est-ce que vous pouvez les aborder? Mon système de valeurs, est-ce que vous voulez les aborder? Et puis, bon, Sofiane, tu as été tirée au sort. Peut-on réellement se fier à ses croyances? Et c'est une vraie question auquel on va tenter de répondre aujourd'hui. Et comme on est très généreux, on profite pour prendre l'ensemble des questions correspondant aux valeurs et aux croyances et de vous tracer une autoroute et une départementale sur ce sujet.
Et on va décortiquer ce sujet tout doucement en commençant d'abord, avant d'aborder le sujet stratégique, fondamental, mais au sens fondation des croyances, on va d'abord parler des valeurs. Qu'est-ce que c'est que les valeurs? Les valeurs, on va essayer de se dire ensemble que ça pourrait être des concepts, des idées qui sont pour vous importantes, qui sont pour à vos yeux fondamentales. Elles sont essentielles puisqu'elles donnent quelque part un sens à votre vie, à vos comportements et aussi quelque part quand elles sont alimentées, ces valeurs, par exemple ça peut être des valeurs de fidélité ou de courage, elles vont aussi des carburants à votre motivation. Ça va être aussi un mode de fonctionnement, une façon d'alimenter vos comportements et votre mise en mouvement. Si demain, par exemple, vous voulez atteindre votre idéal, ce sont vos valeurs qui vous porteront. Si vous voulez accéder à quelque chose, à un environnement, à un poste, à un endroit, c'est justement grâce à ces valeurs-là que vous pourrez y accéder.
Alors en fait, Eric, pour un peu tracer l'autoroute pour nos amis, on pourrait se dire que les valeurs, en fait, ça génère un peu la motivation,
ouais,
c'est ça?
C'est ça.
Ok, d'accord, et c'est ce qui va, pour ainsi dire, nous pousser à agir vers un idéal.
C'est ça, c'est un carburant en fait, c'est ce qu'on va mettre dans le petit carburateur pour générer de la motivation.
Et d'ailleurs c'est très intéressant quand on parle de nos valeurs, parce qu'on peut se dire aussi que ça permet de valider nos besoins.
C'est exactement ça, c'est ce curseur de validation, ça permet de faire des liens, on se dit oh, ben voilà, justement par rapport à cette valeur là, les valeurs de courage, d'abnégation, de passion, de compassion, de partage, ça vient en fait valider, alimenter un réel besoin.
Si on devait faire le top top 3 des valeurs et de manière très spontanée, à toi, petite oreille qui nous écoute, j'aimerais te poser la question, quelles sont les 3 valeurs de manière très spontanée qui sont le plus importantes pour toi dans ta vie ?
D'identifier, là, maintenant, c'est pas une question simple. En même temps, simple, ça veut pas dire simpliste.
Oui.
Il faut arriver à trouver qu'est-ce qui vous anime en termes de valeurs. Alors, on pourrait citer la loyauté, la générosité, la tolérance, la sécurité, le partage. Et il y en a plein. Tout ça adossé aux critères que vous mettez derrière ces valeurs-là. Qu'est-ce que vous mettez comme indicateur autour de ces valeurs ? Et ce sont ces valeurs qui, en fait, vous permettent d'avoir un sentiment profond de vous réaliser. Identifiez bien ce qui se passe en vous, dans le corps, quand vous avez identifié vos valeurs, quand vous avez pu mettre un nom dans ce que vous ressentez, un mot, une situation. En fait, ça va vous procurer peut-être un sentiment d'alignement. Ok, ça c'est moi. Ça donne du vécu, ça donne du sens et vous le vivez à l'intérieur.
Et d'ailleurs, une valeur qui n'est pas respectée, ce qui est intéressant aussi de se dire, peut être vécue comme de l'irrespect ou comme de l'injustice. Et là, on a vraiment une émotion type colère qui peut vraiment nous envahir parce qu'on s'est senti incompris, on a senti cette valeur qui n'était pas respectée à cet instant-là précis.
Exact. C'est par exemple pour prendre ça dans un environnement scolaire comme on l'a vu à l'épisode précédent ou même dans l'environnement du travail, à partir du moment où on va se retrouver dans des situations où nos propres valeurs ne sont pas reconnues ou récompensées, on va se retrouver en sensation de décalage, de mal-être ou de difficulté. Mais ça peut être aussi dans le cas dans le milieu associatif, sportif, peu importe. Imaginez vos enfants ou vous-même dans le milieu associatif où vous vous retrouvez en porte-à-faux par rapport à des difficultés de comportement, des problématiques, je ne sais pas, réglementaires, où vous assistez à l'arbitrage d'un match de foot de vos enfants et il y a une erreur d'arbitrage qui est commise. Si la valeur d'intégrité, d'honnêteté pour vous n'est pas remplie, souvent on voit des parents qui s'énervent vraiment sur les bords du terrain de foot. Alors il y a l'aspect comportemental et la personnalité, mais peut-être et en même temps que la personne se retrouve vraiment atteinte dans ses valeurs.
Et donc, maintenant qu'on vous a demandé à vous quelles étaient les 3 premières valeurs, les 3 premiers mots qui viennent à votre esprit, ben moi j'ai envie de demander à notre cher Eric, quelles sont les valeurs, 3 premières valeurs comme ça, de manière très spontanée, qui sont importantes pour toi ?
Et c'est pas une mince affaire cette question.
Mais dis donc, c'est qu'on se complique la tâche.
Ou des beautés comme ça, parce que quand on pose la question aux gens sur leurs valeurs, souvent ils vont mettre un petit temps de réflexion, il y a une petite pause qui s'opère, comme ça se passe à l'instant pour moi, et c'est normal, puisqu'en fait les valeurs vont être intimement liées à notre identité, on en parlera tout à l'heure. Les valeurs importantes pour les sites, on en citait que 3 et on pourrait faire un roman, c'est les valeurs de partage, de justice et d'authenticité. C'est mon modèle et ma carte du monde. Et toi, tes valeurs, à toi, si tu devais nous en citer.
Eh ben, c'est marrant parce que t'en as touché 2, le partage et l'authenticité qui sont extrêmement importants. Et moi, je dirais la détermination.
Oh, il y en a 2 qui nous
réunissent.
Finalement, c'est peut-être pour toi. C'est peut-être pour ça qu'on est ensemble en train de faire ce podcast.
C'est marrant. Voilà.
Nous ne sommes pas concertés.
Non,
nous tenons à informer nos aimables auditeurs et auditrices que nous ne nous sommes pas concertés préalablement.
C'est des sujets que nous n'avons pas abordés jusqu'ici.
Voilà.
On découvre comme ça.
Nous nous réunissons aussi avec nos valeurs.
Oui.
Et vous remarquerez peut-être que dans votre quotidien, dans la vie de tous les jours, les gens, les personnes que vous côtoyez, avec lesquelles vous êtes le mieux, peut-être qu'ils sont tout simplement aussi raccord avec vos propres valeurs. Et les personnes avec lesquelles vous vous sentez un peu en décalé, en porte-à-faux, pas en bonne compagnie, vous éloignez de vos valeurs. Et donc, pour répondre à ces questions, quelles sont vos valeurs, regardez aussi votre environnement.
Puis ça peut être aussi un jeu de se dire, et toi, c'est quoi tes 3 valeurs, ton top 3 de valeurs, ton podium, voir un petit peu ce que les autres vous répondent. Et puis, c'est, quelque part, c'est une manière d'apprendre aussi l'autre et de le regarder sous un angle nouveau.
Et d'ailleurs, maintenant, nous allons quitter notre route départementale pour partir sur l'autoroute. Et quand on dit autoroute, en même temps, l'autoroute sur le territoire, c'est aussi un maillage structurel de nos réseaux. On peut le dire comme ça. Justement, nos croyances aussi, on a eu un peu cette capacité métaphorique, c'est absolument formidable. Je viens de m'étonner aussi de mon côté, je me surprends. Je pense que je suis en train de me révéler en faisant ce podcast avec toi. En même temps que nous partons sur les autoroutes des croyances, parce que je pense que c'est assez intéressant comme métaphore, nous avons 2 corneilles qui nous passent à côté,
là, voilà.
Patrouille des Tuileries. Et donc, oui, les croyances, c'est une façon, là aussi, de voir les structures, nos structures cognitives. En fait, la croyance, qu'est-ce que c'est? C'est un sentiment de certitude, c'est quelque chose qu'on prend pour vrai, comme authentique, sans jamais l'avoir vérifié. C'est quasiment un peu des pensées automatiques qui vont toucher, en fait, à ce que nous sommes, à ce que nous pensons, à la façon dont nous structurons nos pensées et notre propre modèle du monde. C'est un sentiment de certitude qui est profondément ancré dans la personne. On peut l'observer d'ailleurs quand on va commencer à discuter avec une personne de ses croyances. On peut se heurter à ce qui est véritablement une structure, voire même un mur.
Et ce qui est intéressant de pouvoir dire aussi, c'est qu'une croyance, elle peut être transmise. Vous pouvez avoir culturellement à des parents, un entourage, peu importe que ça soit vraiment la figure d'attachement chez vous ou quelqu'un d'autre, mais qui peut vous transmettre en fait une idée sur lesquelles vous n'avez pas pu le vérifier, peut-être qu'elle non plus, mais ça se transmet de génération en génération. Et donc, peut-être que vous la vérifierez un jour, peut-être pas. Vous la remettrez en question, peut-être pas. Ça va être votre fonctionnement et votre évolution, mais c'est aussi quelque chose qui peut venir de l'extérieur et puis un petit peu
se conforter.
Avec le temps.
Ça peut être entretenu, en effet, par l'environnement. Faire que c'est véritablement une fondation. C'est une fondation des structures de pensée psychique, des structures cognitives, et ça devient en fait une forme d'ancrage. C'est véritablement un sentiment de certitude et qui est en fait en recherche de validation permanente. On a besoin aussi de nous rassurer.
Oui.
Sur nos propres croyances.
Exactement, c'est une mise en sécurité. Ça nous sécurise de penser ainsi, ça sécurise de pouvoir croire en cette idée.
En ce modèle qu'on s'est construit. C'est important, c'est-à-dire que on a tous nos modèles de croyance, on a tous notre façon de croire en certaines choses du monde, en certaines réalités que nous nous construisons, et ça fait en ça une construction de croyances fondamentales pour l'être humain, en ce qu'elles justement elles sont complètement adossées aussi à nos propres angoisses, à nos propres rapports au monde,
oui,
à nos propres peurs d'une finitude certaine, et elles viennent en fait contrebalancer ces angoisses-là, en venant poser des structures de croyances propres à justement venir calmer, apaiser notre rapport au monde et à notre environnement.
Alors, on l'a vu, il y avait différents types de croyances. Il y a des croyances qui sont tout à fait bénéfiques, avec lesquelles on vit très très bien, avec lesquelles ça se passe bien. Et ça, elles sont plutôt aidantes avec nous, parce que on n'a pas besoin de forcément les remettre en question non plus.
Oui.
C'est ok. Et puis il y en a d'autres, et ben là elles commencent, on voit, à nous limiter, à créer de la résistance, à nous mettre parfois même en insécurité et dans celle qu'on a besoin de tester. Et je pense que c'est là aussi la question de Sofiane, c'est de dire quand il dit, peut-on vraiment croire en nos croyances. Et ben effectivement, c'est que peut-être qu'il a quelque chose, Sofiane, à tester, peut-être qu'il a une croyance à vérifier, une croyance à ramollir.
Je suis intimement convaincu que j'ai d'énormes capacités dans mon souhait d'évolution professionnelle. Je suis convaincu que je suis un bon papa. Je suis convaincu que en tant que maman, je pourrais accompagner ma fille dans un avenir radieux et équilibré. Ça, ce sont des croyances qui, en effet, sont portantes. Ce sont des croyances qui sont fortes et elles nous aident. Elles sont aidantes. Et puis, il y a des moments où on va se retrouver confronté à des situations, à des besoins peut-être, à des souhaits, mais au fond de nous, se passer quelque chose.
Il va se passer une remise en question, un mouvement, tout du moins, un changement.
Il va être important et dans un besoin qu'on va ressentir, qu'on aurait identifié, en adéquation avec nos valeurs, à un moment donné, une question va se poser. Ah, finalement, je n'y arriverai pas. Ah, finalement, je ne peux pas faire ça. Ah, finalement, ça n'est pas possible. Et se mettre peut-être en place, là, on va appeler, nous, de notre côté, dans le métier de l'accompagnement, la présence et la présentation de croyances, mais de croyances qui vont être limitantes.
Et là, c'est intéressant de voir les questionner. Alors, bien sûr, hein, de toute façon, n'importe quel thérapeute, prennent la mesure en fait de cette croyance et puis vous questionne, savoir si c'est quelque chose qui vous bloque aujourd'hui, dans lequel vous avez besoin de mouvement, peut-être de la remettre en question, d'aller la tester. Et donc ça peut pas se faire sans votre accord, parce que si on le ferait sans votre accord, vous aurez nettement l'impression d'avoir sauté une marche, et ça fait mal.
Ouais, touche pas aux croyances des personnes d'une manière générale.
Et puis le cerveau n'aime pas le vide.
Voilà, et puisqu'elles sont complètement structurelles, qu'elles sont en fait nos autres, une forme d'autoroute cognitive, le cerveau est protecteur et ne permet pas qu'on vienne ébranler d'un coup comme ça nos croyances. Et d'ailleurs, Élodie, quelles questions nos auditeurs pourraient se poser pour essayer d'identifier leurs croyances?
Eh ben, Eric, moi j'aime bien les exercices en deux temps.
Oui.
Alors, imaginons que toi qui nous écoutes, tu as un projet aujourd'hui, un objectif, quelque chose vraiment, un idéal à atteindre.
D'accord.
Et j'aimerais poser cette question. Qu'est-ce que tu crois qui te ferait réussir? Qu'est-ce que tu crois de toi qui te ferait réussir?
D'accord.
Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on va avoir toutes les croyances. Je crois que je suis déterminée. Je crois que j'ai ma pierre à l'édifice à poser. Je crois que je peux sauver le monde. Non, mais on pourrait demander à Superman aussi. On l'ignore toujours.
Mais... Je pense que Superman a ses croyances.
Superman a ses croyances. Et puis Superman a ses propres terrains de valeur aussi, tu vois. Et puis il a ses propres besoins quand même. Parce que la kryptonite, c'est pas tout. Mais c'est ça l'enjeu. Non, mais on se rend pas compte. Parce qu'on vit en collant toute l'année. On sous-estime cet homme quand même. Avançons. Donc ça serait la première question de se dire, je crois. En quoi je crois aujourd'hui? Que je suis capable de pour ce projet, je crois qu'on a besoin de moi, je crois, voilà, propre à chacun pour répondre à cette question. Et puis il y aurait une deuxième étape qui serait de se dire qu'est-ce que je crois qui me limiterait pour atteindre mon idéal. Et là c'est assez intéressant d'aller se poser la question parce que on peut avoir aussi une liste exhaustive ou pas, hein, mais de se dire ben voilà, aujourd'hui qu'est-ce qui me limite, en quoi je ne crois pas. Alors il y en a qui vont ne pas croire en certaines de leurs capacités, il y en a qui vont pas croire de manière identitaire aussi, parce qu'ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas, voilà, ils sont pas psychiquement armés pour. Mais c'est intéressant quand même de se poser la question. Et c'est juste une question, c'est juste de l'observation. On ne demande pas derrière de faire des grands mouvements, mais non, voilà, juste d'observer.
D'observer qui motive la personne dans son mouvement et ce qui bloque la personne dans son immobilisme aussi. Souvent, on se retrouve dans des situations de blocage et notre métier aussi, que ce soit sur l'accompagnement thérapeutique ou en coaching, c'est aussi d'identifier ces croyances limitantes qui viennent en fait un peu perturber la personne dans ses capacités de développement, viennent l'inhiber, viennent l'empêcher en fait de penser un peu plus loin et donc d'agir un peu plus loin. Mmh. C'est toujours intéressant et d'ailleurs, dans l'identification des croyances, tout un schéma de questionnement qu'on propose, qui vont jusqu'à en fait demander à la personne et pourquoi elle pense ça. Exemple type, c'est en Bretagne, il pleut toujours.
Mais pourquoi tu dis qu'en Bretagne il pleut toujours? Voilà.
C'est pourquoi derrière. Et voilà. Il pleut toujours parce qu'à chaque fois que j'y vais, il fait gris. Ok, donc à chaque fois que tu y vas, il fait gris. Et pourquoi tu penses qu'à chaque fois que tu y vas, il fait gris?
Parce qu'il y a toujours mauvais temps.
Parce qu'il y a toujours du mauvais temps. Et il y a toujours du mauvais temps tous les jours de la semaine, tous les jours de l'année, il fait beau, il fait moche en Bretagne. Quand on va confronter la personne à son propre raisonnement, à un moment donné, on va lui poser cette question. Et alors? Et la personne, en général, quand vous avez touché sa croyance, elle va un peu grimacer.
Elle va un peu grimacer, d'autant plus que quand une personne commence à entamer les « c'est toujours comme ça, c'est une vérité vraie
hein », une vérité absolue.
La vérité absolue. Finalement, derrière, il y a une généralisation qui n'a pas été vérifiée parce que si aujourd'hui je suis à Paris, et enfin Eric dit qu'il est à Paris, je vous l'assure, on est ensemble sur Paris.
Voilà, tout le temps, et qu'il me dit à Paris, pas en Bretagne.
Quand en Bretagne, il pleut tout le temps, je peux lui dire c'est faux. Moi, j'ai connu des temps magnifiques en Bretagne, mais du coup, effectivement, si son expérience se résume à ces 4 jours, il y a ou ces 15 jours, il y a 2 ans passés, bah, il finit par avoir une croyance, une généralité sur ce qui est en train de se passer. Et ça renforce en fait sa croyance d'origine.
Et c'est tout le jeu qui se passe entre ce que l'on croit, ce qu'on n'a jamais vérifié, et notre capacité à vouloir renforcer justement ce qui nous rassure par des généralisations, par le fait qu'il n'y a pas de raison qu'on vienne s'opposer à cette croyance-là. On a terminé notre petite cartographie des valeurs et des croyances. On a quitté la départementale pour aller à l'autoroute et maintenant on va prendre la première sortie d'autoroute.
Pour rentrer à la maison.
Pour rentrer à la maison. Oui. Pour aller gentiment vers le prochain épisode de notre podcast.
Oui, exactement, qui est un podcast sur le stress, l'angoisse et l'anxiété.
On va partir sur le chemin du stress, de l'angoisse et de l'anxiété, qui va être en partie aussi en lien avec ce qu'on vient de voir là.
Oui.
Et puis, mais d'ici là, le prochain épisode, on va vous souhaiter de prendre soin de vous.
De vivre l'instant présent.
Mais entre-temps, de liker, de commenter et de partager, parce qu'on a aussi besoin de ça de notre côté.
On a aussi besoin de ça. Et n'oubliez pas, pour toutes vos questions, vous pouvez nous envoyer un mail via sacado-podcast@gmail.com ou alors commentez directement les vidéos pour nous poser vos questions, pour pouvoir aussi nous rejoindre, comme Clémentine l'a fait et comme d'autres vont pouvoir également le faire. Ça sera avec grand plaisir que l'on puisse s'organiser cette petite balado ensemble.
Voilà, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.